Quelques remarques qui m'ont été faites à propos des cours précédents. La question du statut des orfèvres. Comme je vous ai dit, donc l'artiste ne signe jamais. Alors, et on n'indique que le poids. Donc, ce qui pourrait laisser penser que, en fait, le travail de l'orfèvre n'avait en réalité aucune importance pour la valeur de l'objet. Alors, Anca Dan me signale que, à l'époque romaine, à l'époque de Néron, on sait par Pline, Histoire naturelle, chapitres 33 et 34, qui portent sur l'or et l'argent, que, à l'époque de Néron, l'orfèvre coûtait aussi cher que le métal. Et pourtant, l'orfèvre n'est jamais mentionné sur les objets précieux, et les seules indications qu'on a, c'est le poids. Voilà, donc ça pourrait remettre en cause l'idée que le prix du travail ne comptait pas dans le prix de l'objet. Ceci dit, ce n'est pas non plus incompatible avec l'idée que seul comptait le poids. On pourrait penser que le prix de l'orfèvre, ça relevait du choix et du caprice du commanditaire, qui était prêt à payer ce qu'il voulait, mais que pour la valeur d'échange de l'objet, or on sait par exemple que les plats d'or et d'argent pouvaient être mis en gage, ce qui comptait, c'était le poids. Voilà. Donc la question est ouverte. Alors, je reviens sur cette question très intrigante du plat où la couronne est celle de Hormizd II, mais le roi est un roi jeune, et d'où mon idée, qui à mon avis n'a pas encore été émise, que ce serait Shapur II mineur, on sait qu'il est né, il est roi à sa naissance, qui porterait encore la couronne de son père. Alors, il y a une indication qui irait dans ce sens, c'est que on sait que les rois recevaient leur couronne, non pas au moment de le jour de leur avènement, mais au nouvel an suivant. C'est là qu'avait lieu le couronnement solennel à Ctésiphon. Alors, quel nouvel an? C'est un peu un problème, c'est pas très clair. Est-ce que c'est le nouvel an du calendrier, qui à cette époque devait être à l'automne, ou est-ce que c'est le nouvel an solaire, l'équinoxe de printemps? On a une indication dans l'autobiographe, dans la vie du prophète Mani, qui explique qu'il a fait son premier sermon le jour où le soleil entrait dans le signe du bélier, c'est-à-dire à l'équinoxe de printemps, au moment du couronnement de Shapur Ier. Donc on pourrait penser que c'était effectivement l'honorus solaire. Donc on pourrait supposer que s'il s'agissait d'un roi enfant, en fait, on ne l'a pas couronné solennellement avant peut-être sa majorité, soit ses 7 ans, ce qui était l'âge où on était supposé sortir de l'enfance, soit à sa majorité, en Iran, c'était 15 ans. On pourrait supposer ça. En plus, il y aurait des raisons pratiques, c'est que s'il avait fallu lui faire une couronne à 6 mois, il aurait fallu refaire la couronne régulièrement et ça aurait coûté cher. Voilà. Ceci dit, il y a un problème avec les monnaies et j'ai pas encore eu le temps de faire la recherche. Sur toutes ces monnaies, Shapur II a la couronne qu'il aura pendant tout son règne, la couronne qui est en fait la couronne d'Ahura Mazda avec des créneaux. À cette époque, je crois qu'on n'indique pas encore les années de règne sur les monnaies. Donc, on peut pas vraiment savoir quelles sont les monnaies qui datent de l'époque de l'enfance de Shapur II. Bon, il faudrait que j'aille voir dans le catalogue exhaustif des monnaies sassanides, la syllogée, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Alors, nous continuons donc sur cette vue assez détaillée de la typologie des plats royaux à scène de chasse. Les espèces chassées, vous avez déjà pu vous rendre compte par plusieurs images que j'ai montrées, sont très diverses. Alors j'ai fait l'inventaire. Il y a d'abord des fauves, lions, panthères, tigres. Ensuite, il y a les cervidés et les capridés. L'ibex, la gazelle iranienne, disons. le mouflon, le cerf. Il y a aussi le sanglier qu'on voit ici. Et il y a l'autruche. Il n'y a que deux plats qui montrent des autruches, mais dont celui-là. Le zébu sauvage, il y avait des zébus sauvages, et l'onagre. Je vais montrer un plat avec où on attrapait un onagre au lasso. Donc là, l'onagre qui est un âne sauvage. Bon. Alors, donc en fait, cette liste comprend en réalité tout ce qui est assez gros et qui est soit et qui est rapide, dans tous les cas c'est rapide évidemment, si c'est des proies de chasse. Qui généralement, pas toujours, est dangereux. Voilà les critères. Alors, par exemple, on n'a pas le lièvre. Trop petit, ça paraît quand même un peu, ça paraît un peu indigne pour une chasse royale. Il en manque un, et pas des moindres, c'est le loup. Il n'y a pas un plat sassanide qui montre une chasse au loup. Jamais. Or, le loup, il est très présent en Iran. Bien. J'ai regardé dans la peinture sogdienne, curieusement, ça a l'air d'être la même chose. Il y a un cas de chasse au loup, mais le loup a trois têtes. Donc, en fait, c'est un animal monstrueux mythologique. Alors, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que le loup n'est pas considéré comme une proie digne d'un roi. Parce que la chasse au loup, c'est de l'extermination de nuisibles. Le loup, c'est l'animal classé le plus bas dans l'échelle des valeurs zoroastriennes. L'animal classé le plus haut, c'est le chien. L'animal classé le plus bas, le plus infernal de tous, c'est le loup. Ce qui n'empêche que certains aristocrates, dans les noms de famille aristocratiques, il y a des gens qui s'appellent loup, gorgue. Mais bon, c'est un ordre de valeur différent. Je dirais que le chasseur aristocratique doit entretenir une certaine relation de sympathie avec sa proie. Et ce n'est pas possible avec le loup. Par ailleurs, dans tous ces animaux qui sont chassés, on sait qu'ils étaient mangés, sauf les félins. L'autruche était un mets très apprécié à la cour. Bien. Et même l'ours. Il paraît que l'ours, c'est délicieux. Je n'ai jamais essayé, mais il paraît que c'est très bon. Et par exemple, c'est très apprécié en Sibérie. Bien. Et on a aussi... Alors, dans cette idée qu'il doit exister une certaine relation de sympathie entre le chasseur et sa proie, on peut citer le témoignage d'un texte Pélévi, zoroastrien, la Rivoyade Pélévi, qui explique clairement qu'il s'agit du cas du mouflon. Et il est dit on peut consommer sa viande s'il a été tué à la chasse ou s'il a été sacrifié, aux dieux. C'est-à-dire que la chasse, d'une certaine façon, sanctifie l'animal et en fait l'équivalent d'un animal sacrifié. Alors, toujours pour continuer sur cette typologie des chasses royales, parfois, pas toujours, il y a des éléments de réalisme. Voilà. Alors, on a parfois des montagnes. En général, c'est avec les chasses à l'ibex, au mouflon, mais des montagnes extrêmement simplifiées, très schématisées. Et dans le cas du sanglier, on a ce magnifique exemple où le décor est un marécage. Hein, ce sont des roseaux et du marécage. Ce qui correspond exactement à la niche écologique du sanglier. Un sanglier n'est pas un animal de la montagne, ce n'est pas un animal de la steppe, c'est un animal des bords de rivière, des marécages. Dans le choix des espèces, il y a des cas où on voit qu'on a essayé aussi d'être réaliste. En Iran, le grand félin qui est chassé par le roi, c'est le lion. Les lions, il y en a en Iran. il y en avait. Les derniers lions, semble-t-il, ont été observés du côté de Suse dans les années 1940. Dans les plats qui sont faits à l'Est, en Asie centrale, généralement, pense-t-on ceux de cette école dite aux drapés ondulés, on a parfois des lions par, je dirais, tradition. Mais parfois, on voit des tigres. Et effectivement, le grand félin en Asie centrale, c'est pas le lion. On sait pas exactement quand le lion a disparu, mais disons aux époques historiques, c'est vraiment le tigre. Le tigre, il habite dans les jungles qui sont au bord de la Moudaria, et il habite également dans les montagnes de l'Hindoukouch. Et par ailleurs, il y avait des tigres au bord de la Caspienne. Alors, on a le tigre et aussi, magnifique exemple de réalisme, sur ce plat très probablement aussi exécuté à l'Est, bon, on a ici un sanglier, et ici, l'animal qui bondit, ça n'est pas un lion, c'est la panthère des neiges. Bars, c'est la panthère des neiges, tout à fait caractéristique des montagnes de l'Afghanistan. Les techniques employées sont assez variées. Généralement, c'est à l'arc, mais on a aussi des combats, je dirais, presque au corps à corps avec l'animal, à l'épée, à la lance. Et il y a aussi, mais ça, on va revenir là-dessus, on a un cas, ou plutôt deux cas, de chasse au lionceau. C'est-à-dire que le roi exhibe... on l'a ici, en fait. Voilà, vous l'avez là. On a capturé un petit lionceau qu'on exhibe pour que la mère sorte de la tanière, pour provoquer la mère. Et c'est une technique qui était connue aussi dans le monde romain. On a des mosaïques qui montrent également cette technique de chasse au lionceau. Alors, parfois, rarement, l'exploit est clairement surhumain. Alors, on avait vu le cas de Chapour II à califourchon sur un cerf. C'est quand même un cas unique. Je sais que Samra a émis quelques réserves, mais je continue à penser qu'il y a une influence du modèle du sacrifice du taureau par le dieu Mitra. Et puis, on a dans ces exemples héroïques, on en a un assez remarquable, c'est Yazdgird II qui, tout simplement, tue un zébu sauvage d'un coup de poing. Là, on est complètement dans le surhumain. Il y avait probablement des traditions littéraires sur le roi qui assomme un buffle ou un bœuf, parce que c'est ce qu'on racontait sur Séleucos Ier, le fondateur de la dynastie des Séleucides, qu'il aurait tué un taureau comme ça. Et ce qui explique que parfois, sur les monnaies de ses successeurs, sur ses monnaies en tout cas à lui, il a des oreilles de taureau sur son casque. Voilà, donc nous venons de parcourir les caractéristiques des plats de chasse. Alors, il y a un thème qui apparaît en variante de la chasse royale, c'est le légendaire royal national. Voilà, qui n'est plus forcément l'image du roi régnant, mais ça peut être en référence à des exploits de héros du passé. Alors, on a déjà vu le cas de ce plat régional de l'Est avec un souverain qu'on n'identifie pas et qui, visiblement, réédite ici l'exploit de Rostam capturant son poulain Rarch. Mais surtout, ces thèmes héroïques on a l'air de les trouver plutôt en association avec un souverain spécifique, qui est Bahram V. Bon, on est Bahram connu dans la littérature surtout comme Bahram Gur, qui n'a pas eu un règne très long, comme vous voyez, mais qui reste dans la tradition iranienne comme le preux, le modèle du bon chevalier et aussi le modèle de la joyeuse vie aristocratique. Bahram Gur, alors il y a tout un problème sur ce nom qui lui est attribué. Dans Ferdowsi, et d'une manière générale, c'est comme ça qu'on comprend, c'est parce qu'il aimait chasser l'onagre, Gur. Et puis, finalement, il est mort lors d'une chasse à l'onagre parce que, en pourchassant la bête, il est tombé dans un fossé. Et donc, évidemment, on a le jeu de mots que, je ne sais pas si c'est Ferdowsi qui le fait, mais il a été fait. Bahram, en chassant le Gur, l'onagre, a trouvé son Gur, sa tombe. En fait, on pense maintenant que c'est un titre local d'Asie centrale qu'on a retrouvé en bactrien. Alors, il se trouve qu'on a ce très beau plat de l'école de l'Est où, bon, ça a vraiment l'air d'être lui. Bon, la couronne n'est pas tout à fait... Il manque un petit merlon au milieu, là, sous le croissant, mais la représentation des couronnes dans l'école de l'Est n'est pas tout à fait aussi exact que sur les monnaies et dans l'école de l'Ouest. Bien. Donc, il chasse au lionceau. Et je ne sais pas si le rapprochement a déjà été fait, mais moi, je suis tenté de le faire. J'ai été chercher dans Ferdowsi ce qu'on raconte sur les chasses de Bahram Gur. Et j'ai trouvé ça, une chasse au lion. Quand le lion aperçut ce féroce dragon, il leva les pattes de deux... Alors, j'ai mis en rouge ce qui me paraît... présenter des points communs avec le plat. Il leva les pattes de devant et fit un bond. Il voulut atteindre le cheval au front. Mais le chasseur le repoussa du talon. Son glaive atteignit la tête de l'animal. Alors la femelle s'enfuit derrière son mâle. Le glaive trancha le lion de haut en bas. Ouais. Le cœur des lions mâles se remplit d'effroi. Arriva un autre lion féroce et rebelle et sa lionne avec un petit à la mamelle. Le roi le frappa de son poignard au cou, la tête du lion roula au loin d'un seul coup. Or, ce que vous avez ici, c'est en déviance, en fait, sur l'image habituelle des deux animaux, où très clairement, ils sont absolument identiques, il y en a un qui est vivant et l'autre qui est mort. Ici, ça n'est pas le même animal, c'est un couple. Parce que la femelle, ici, c'est la femelle, qui évidemment va essayer de défendre son petit, et la femelle a des mamelles, hein, très apparentes. Donc, elle a le petit à la mamelle. Elle est en train de l'allaiter. Moi, je suis quand même très frappé par la similitude entre l'image qui est bien une image de Bahram Gur et ce passage. Alors, la situation est en fait se complique un tout petit peu parce qu'il y a ça, voilà, sur lequel je suis tombé. Il y a deux jours, à Messaïnak, fouille donc en Afghanistan, près de Kaboul. C'est un grand centre, c'est une grande ville minière qui était sur des mines de cuivre, qui dépendait du royaume de Kaboul. On a trouvé plusieurs plats sassanides, ou plutôt des plats, des imitations locales. Ce qui laisse quand même à penser que ces objets circulaient beaucoup. Et en voilà un, malheureusement, on n'a pas la photo, on n'a que le dessin. On retrouve le même thème, la lionne, alors là, encore plus, les mamelles encore plus nettes, le lion, là, il se trouve qu'on a à nouveau la convention de l'animal mort, le lionceau. Mais le roi n'est pas Bahram Gur. Cette couronne... n'est pas particulièrement caractéristique. C'est en fait une espèce de non-couronne, puisqu'il n'y a pas d'autre ornement qu'une calotte. Donc, c'est une imitation locale, peut-être pour un souverain local. On s'aperçoit quand même qu'avec cette école de l'Est, Marshak n'avait pas complètement raison et Harper n'avait pas complètement tort. Marshak pensait que tous ses souverains étaient des souverains sassanides. Harper disait non, c'est plutôt des souverains locaux. Je crois que la vérité combine les deux. Dans certains cas, on voit clairement une ligne de plats très officiels qui sont faits pour des souverains sassanides et probablement faits à Merv, mais ça a l'air, il y a pas mal d'imitations, par des souverains locaux. Alors, ce que je suis en train de me demander, c'est si on ne pourrait pas, en fait, dans le cas de cette image, inverser la relation de dépendance entre le texte et l'image. Est-ce que ça n'est pas, en fait, en envoyant des plats de ce type, que Firdousi aurait été inspiré dans sa description? Parce qu'il a l'air quand même de décrire, il a l'air de décrire une image, là. Il décrit quelque chose. Alors, voilà, on pourrait ne pas exclure, de même que Abu Nuwas, comme je l'ai donc dit, le poète arabe Abu Nuwas, a composé son poème alors que visiblement il avait entre les mains un plat sassanide d'un type répertoriable, je me demande si on ne pourrait pas dire la même chose avec ces vers de Ferdowsi. Alors, Bahramgur, donc, on l'a vu, c'est un grand chasseur de lions, mais évidemment, l'exploit qui l'a immortalisé dans le Livre des Rois et dans toute la tradition iranienne ultérieure, c'est sa chasse à la gazelle. Alors, vous connaissez tous l'histoire. Il chasse avec une favorite musicienne. Ici, l'instrument n'est pas représenté. Azadeh. Et il chasse au chameau. Alors, très important qu'il chasse au chameau. C'est le seul roi sassanide, je crois, qui est représenté chassant au chameau. Et c'est parce que, dans sa jeunesse, il était à moitié exilé par son père, il n'était pas désigné comme l'héritier du trône, et on l'a envoyé, en fait, se faire éduquer chez les Arabes. Et donc, là, il a appris la monte du chameau. Et alors, sa concubine Azadeh, qui est très taquine, lui lance des défis. Et elle lui demande, elle lui dit, mais je reprends évidemment dans Ferdowsi, c'est indigne d'un souverain de chasser des pauvres gazelles, c'est quand même un animal, c'est une proie facile, je vais te demander quelque chose de spécial, c'est de transformer une gazelle mâle en gazelle femelle et une gazelle femelle en gazelle mâle. Et il y arrive. Une flèche à deux pointes se trouvait dans son carquois quand il chassait. Quand les gazelles se mirent à galoper, alors les cordes du mâle, si empressées par les doubles pointes, furent arrachées. C'est ce qu'on voit ici. La jeune fille en fut tout époustouflée. Tout aussitôt, le mâle devint une femelle, ayant perdu ses cornes noires de gazelle. Ensuite, il planta ses deux traits sur le front de la femelle, comme les chasseurs font. Elle avait ainsi deux cornes sur le devant. Voilà. Et c'est exactement ce qui est représenté ici. Alors, ce thème a été représenté sur d'autres plats. On connaît deux autres plats. Par ailleurs, il est représenté sur des stucs de Chaltarkhan, je crois qu'ils sont au musée de Téhéran. Alors, on a un plat ici. Alors, je vous dis tout de suite... seul le premier plat est d'époque sassanide. Là, ce sont probablement des imitations, des plats postérieurs. Alors, voilà le même thème exactement. Alors, je vais revenir tout de suite sur le détail de la couronne qui est intéressant. Et on a encore un autre plat, également à l'Ermitage, post-sassanide. Je m'excuse, là, l'image n'est pas très bonne. Et là, la couronne, c'est la couronne à deux merlons et un croissant, c'est la couronne banale des derniers rois sassanides à partir de Péroz. Donc, c'est devenu, en fait, c'est plus associé à un roi spécifique. Mais alors voilà, ce qui est curieux, c'est que sur le plat, qui est certainement d'époque sassanide, typologiquement, Par les traits stylistiques, ça a l'air d'être fin 5e, début 6e siècle. Il n'a pas une couronne du tout caractéristique d'un roi sassanide. Il n'a pas la couronne de Bahram V. Et par contre, ici, sur le plat post-sassanide, il a la couronne de Bahram V, avec les trois mirlons. Oui, mais c'est seulement cette image-là qui est authentique. Et pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encore roi, il est prince héritier. Donc, quand on a fait ce plat, on savait que, comme prince héritier, il n'avait pas encore eu sa couronne de roi. Et on a fait attention de ne pas lui mettre une couronne de roi. Et puis plus tard, on ne connaissait plus ses subtilités, on savait que l'exploit était associé à Bahram V, on savait quel type de couronne avait Bahram V, et on la lui a mise. Alors, petit détail sur la fille, on pourrait penser que c'est une reine, parce qu'elle a un diadème avec des rubans flottants, comme le roi, et on ne voit pas bien ici, mais enfin, elle a un haut chignon. Les reines sont représentées comme ça, mais on sait par d'autres exemples, des sceaux, les concubines royales ont aussi des pseudo-couronnes. La couronne ne signifie pas forcément la condition royale chez les femmes. Marchak pensait qu'en fait, il s'agissait... Justement, il n'avait pas fait attention à l'explication de la couronne non royale. Et lui, il pensait qu'il s'agissait en fait d'un épisode mythologique, peut-être associé au dieu Vahram, parce que l'une des incarnations du dieu Vahram, c'est le chameau, et que plus tard, dans la tradition, on aurait attribué ça, rétrospectivement, à Vahram V. Je ne crois pas à cette explication. On n'a pas d'autres exemples où un dieu zoroastrien sur les plats est représenté comme ça, sur son symbole animal. C'est clairement un prince ou un roi. Je pense que c'est un exploit qui, très tôt, je ne pense pas quand même que l'exploit ait été authentique, mais qui très tôt a été associé. Il y avait des histoires sur Vahram V. Ça a dû lui être associé assez tôt. Ce plat, si la datation stylistique est exacte, il a été fait peut-être 3 ou 4 générations après lui. On n'est pas très loin de son époque. Alors, quelque chose d'autre mérite d'être commenté, c'est que l'épisode a une suite. Mais sur les plats, on a retenu que la partie la plus héroïque de l'épisode, celle où il transforme les gazelles, où il fait changer le sexe des gazelles. Mais il y a une suite qui est raconté par Ferdowsi, qui est représenté dans l'art, mais uniquement à partir à l'époque islamique. Voilà, ici, c'est un plat du XIIe siècle. Voilà la suite de l'histoire. Donc, la fille est pleine d'admiration devant l'exploit, et la fille lui dit, « Tu es Ahriman, et si tu ne l'es pas, comment les as-tu tirés de la sorte ?» Il la poussa d'un geste fort et autoritaire, elle fut renversée et tomba sur la terre. Il la chargea avec son chameau soudain, le sang coula sur son luth et son sein. Elle mourut sous un chameau écrasé. Il ne prit plus de femme pour aller chasser. Bien. Alors, en fait, avant de... entre l'exploit du tir sur les cornes de gazelle et la fin de l'épisode, il y a encore eu un autre exploit, c'est qu'elle a continué à le titiller en lui disant, ben maintenant... tu vas faire en sorte de clouer la patte d'une gazelle sur son oreille. Et il le fait. Il lance un caillou à une gazelle. La gazelle, avec sa patte arrière, se gratte l'oreille. Il tire et du coup, la flèche cloue le pied de la gazelle à sa tête. Et vous voyez, c'est représenté ici. Et on voit même le caillou. Voilà, c'est une composition très elliptique, très télescopée. Ici, la fille, elle est représentée donc deux fois, jouant de la harpe ici, et ici, mourant sous les pieds du chameau. Et, bien entendu, le public auquel était destiné ce type d'objet connaissait les vers par cœur. et pouvait immédiatement reconnaître l'épisode. Alors, il y a un petit problème textuel, c'est que j'ai adopté, donc il y a plusieurs, les éditions ne donnent pas tout à fait le même texte. Et dans une des versions, et je ne sais pas si c'est la version qui est dans l'édition de référence de Motlak, il faudrait vérifier. Enfin, le coq a suivi en tout cas une édition où on n'a pas le mot Ahriman. Et moi, je pense qu'il y avait le mot Ahriman. Parce que c'est la seule explication à la cruauté du châtiment. Ahriman, c'est le dieu du mal. Appeler le roi du nom d'Ahriman, c'est le crime de lèse-majesté suprême. Alors, ça n'excuse certes pas le comportement de Vahram, mais ça permet quand même de le comprendre. Voilà. Donc, je pense qu'il y avait, effectivement ça dans le texte. Alors, cet épisode, on sait que cet épisode était très populaire à l'époque donc sassanide et aussi post-sassanide, pas seulement sur les plats, mais je l'ai dit, donc on l'a sur des stucs. Et puis, on a donc un passage du géographe arabe Ibn al-Faqih du Xe siècle qui parle de Bahram Gur et qui dit « Sur les images que font les Perses sur leurs vases, leurs tissus et leurs tapis, il est toujours figuré à dos de chameau. » En fait, on a d'autres images de Bahram Gur à la chasse, notamment, comme on l'a vu, à la chasse au lion. Mais le seul épisode dont on a voulu se souvenir à l'époque islamique, c'est cet épisode de la chasse à la gazelle, qui évidemment était le plus pittoresque. Alors, nous avons donc vu dans les thèmes des grands plats royaux le thème de la chasse, le thème de la chasse liée à des récits héroïques sur les rois. Il y a un dernier thème qui est le thème du roi trônant. Alors je vous dis tout de suite, c'est rare et c'est tardif. En fait, dans les plats, disons, véritablement d'époque sassanide, on peut dire qu'on en a deux qui montrent ce thème. Alors, l'un de ces plats, c'est le plat dit de Strelka. Il est à l'Ermitage, c'est l'endroit où on l'a trouvé, qui, en fait, est une combinaison du thème du roi trônant et du roi chassant. Bon, je vous dis tout de suite qu'il y a un problème de date. En tout cas, ce plat appartient à l'école de la cour, hein, l'école des doubles lignes, vous voyez ici. Mais à ma connaissance, c'est le premier où est abandonnée la technique des inserts, les pièces qu'on fabriquait séparément et qu'on insérait dans la coque. Là, c'est entièrement au martelage et au ciselage. Il semblerait quand même qu'il y a là assez nettement un modèle romain. Je vous l'avais d'ailleurs déjà montré. C'est le fameux plat de Théodose, donc vers 389. Donc, dans tous les cas de figure, c'est au moins un siècle antérieur au plat que nous discutons. L'empereur Théodose avec deux jeunes empereurs. Qui sont, enfin, l'un son fils, l'autre un autre, le fils d'un prédécesseur. Ce sont donc ses héritiers. La composition est la même, puisqu'en dessous, il y a un autre registre, mais qui là représente une divinité. Je pense que c'est une divinité fluviale, au repos, avec des angelots. Et là, le roi trônant. Et si vous comparez avec l'autre, vous voyez que le schéma de la composition est le même. Il y a probablement eu un effet d'influence. Alors, bon, pour identifier, il faut partir de la couronne. Et là, problème, c'est que ce type de couronne, avec deux merlons et un croissant par devant, hein, différent du croissant qui surmonte, c'est devenu, à la fin de l'époque sassanide, c'est pratiquement la couronne la plus répandue. Et en tout cas, là, elle est portée de manière continue pendant 120 ans à peu près. Ça commence avec Péroz, sa deuxième couronne, 459. Puis elle est adoptée par Kavad, qui règne 50 ans. Et ensuite, par le fils de Kavad, Khosrow Ier. Donc, on peut hésiter entre trois souverains. Et puis, par ailleurs, détail quand même curieux, c'est que la couronne du roi du dessous n'est pas la couronne du roi du haut. Là, on a la couronne à trois merlons, enfin trois créneaux. Et là, non. Alors, bon, on pourrait dire erreur de l'artiste. Enfin, quand on dit erreur, en général, c'est que c'est une solution un peu désespérée et c'est qu'on n'a pas trouvé mieux. Bien. Alors, Marchak pensait que c'était Kavad et que, en fait, c'était un plat d'intronisation, n'est-ce pas ? Il transmet le trône à son fils Khosrow. Alors, il a raison sur un point, c'est qu'il s'agit probablement de deux souverains différents. Non seulement la couronne n'est pas la même, mais on n'a aucun exemple de plat qui montre deux fois le même roi. Donc il y a certainement une histoire de transmission là-dedans. Bien. Mais ça ne peut pas être Khosrow. Il n'a jamais eu cette couronne-là. Alors, en regardant donc les différents types de couronnes, moi je ne peux penser. Voilà. Le seul cas de figure auquel je peux penser, c'est Péroz, le premier qui a arboré ce type de couronne. Vous le voyez ici, les deux merlons et le croissant. Rendant hommage à son père défunt, Yazdgird II, qui a la couronne à trois créneaux. Alors, il y aurait. On pourrait trouver quelques arguments. C'est que la succession de Yazdgird II a été disputée. Il y a d'abord eu rivalité entre Péroz et un frère, qui s'est proclamé lui-même souverain. Et donc, ce serait une affirmation de succession légitime. Et puis, par ailleurs. Il est dit nommément dans la chronique byzantine de Priscus que Péroz avait hérité de la guerre à l'Est qu'avait commencé son père. Donc, il s'affirme dans la continuité. Alors, qui sont ces quatre personnages, ces quatre dignitaires qui l'accompagnent ? Alors, contrairement au plat de Théodose, évidemment, ça n'est pas les jeunes princes. Alors, ce n'est pas des prêtres. Ils n'ont pas les attributs des prêtres. Ils ont une coupe vestimentaire qui est assez caractéristique plutôt des régions de l'Est. Et vous voyez, ils sont dans une posture qui est la posture de soumission, de respect. C'est très précisément décrit à la cour royale iranienne, en présence du roi, on cache ses mains dans sa veste ou dans sa manche. Il y a même eu, je crois, il y a un personnage à l'époque achéménide qui a été exécuté parce qu'il était apparu en présence du roi avec les mains découvertes. Moi, ça ne me paraît pas très malin comme précaution, parce que c'est plus facile de cacher un couteau comme ça qu'en montrant ses mains. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Marchak pensait que c'était... Non, on a dit que c'était les quatre commandants en chef des quatre armées. Parce qu'à l'époque sassanide tardive, l'armée sassanide est réorganisée et on a, sur les quatre grandes frontières de l'Iran... un général en chef qui... un Sparbed, général en chef, qui commande tout le secteur. Il y en a quatre. Sauf... Enfin, c'est plutôt attesté sur Roslo. C'est quand même... ce qui est quand même curieux dans ce cas-là, c'est qu'ils ne sont pas armés. Bon, ils ne sont pas armés. Ils ont quand même cette pose de soumission. Ils n'ont pas un casque. Ils n'ont pas un des attributs militaires très caractérisés. Alors, Marchak pensait qu'en fait, il s'agissait de souverains soumis qui assistent à l'audience à la cour. Et pour ça, il y a un texte, mais beaucoup plus ancien. C'est à propos du roi d'Arménie, Tigrane Ier, au 1er siècle avant notre ère. Mais bon, Tigrane est roi d'Arménie, mais bon, en réalité, de culture, d'origine, c'est un Iranien. Hein, c'est le descendant d'une dynastie de gouverneurs achéménides. Et Plutarque écrit à propos de Tigrane, quand il tenait son audience, quatre des rois vaincus se tenaient à ses côtés, les bras croisés sur la poitrine. C'est exactement ce qu'on voit là. Évidemment, il y a l'intervalle de temps. Je ne pense pas qu'on ait des témoignages entre les deux. Mais bon, connaissant le caractère tout de même extrêmement conservateur des usages de cour iraniens, ça paraît assez crédible. Et dans ce cas-là, on aurait, je dis bien on aurait tout ça, on est dans le domaine de l'hypothèse, mais si on ne fait pas des hypothèses, on n'avance pas. On aurait un plat exécuté au moment de l'avènement de Péroz, quand il hérite de la guerre à l'Est de son père. Il hérite du trône après une succession disputée. Et au début, on sait que ça va très mal se finir, et qu'il va finir par se faire... Il va être prisonnier, et puis fini par... En 484, lui et toute son armée périssent dans un fossé devant les Ephthalites. C'est la catastrophe. Mais au début, il est plutôt du côté... il est plutôt vainqueur dans ces guerres. Il combat les prédécesseurs des Ephthalites, qui sont les Kidarites. Il a des relations d'alliance avec des souverains locaux en Bactriane. Ça, on le sait par les archives bactriennes de Robe, où on voit que les plus petits princes de Robe est en négociation avec Péroz. Donc, on pourrait supposer qu'il s'agit là de, je dirais, des princes de l'Est qui seraient alliés, peut-être otages. Voilà. Bon. On ne peut pas aller plus loin pour le moment. Il y a aussi la question du trône, qu'on va retrouver avec le plat suivant. D'habitude, on s'attend plutôt à un trône de lion, mais à vrai dire, on a extrêmement peu de scènes de roi sassanide sur le trône, sur des plats. Sur les reliefs, je ne crois pas qu'on voit l'animal qui porte le trône. Là, ce sont des Pégases, des chevaux ailés. Bien, alors, ça pourrait... on pense aux chevaux de Mitra, dont le char est tiré par des chevaux aériens. Je crois même qu'ils sont décrits comme ailés dans le Myriasht. Si c'est Mitra, ça pourrait être la fête des Mihragon. Les rois d'Iran apparaissaient à leur peuple, les grandes audiences où étaient représentées toutes les catégories sociales, ils apparaissaient à deux occasions dans l'année. Le Nowruz, le Nouvel An, et six mois après, les Mihragan, la fête de Mitra. Ça pourrait peut-être être l'audience des Mihragan. Question qui va se poser à propos de la coupe suivante, qui, elle, alors, a fait couler encore plus d'encre. C'est évidemment la grande coupe en or et incrustation, polychrome, qui est aujourd'hui un trésor du cabinet des médailles à Paris, qui d'ailleurs, je crois, ne l'expose pas. ne l'expose plus, puisque le cabinet des médailles est en restructuration. Je crois qu'il va y avoir une petite sélection d'objets qui finira par être réexposée sur le site Richelieu. Actuellement, tout ça, je crois, est en caisse sur le site de la Grande Bibliothèque. Et l'accès pour les chercheurs n'est pas forcément très facile. Ce plat est en France au moins depuis le 9e siècle. Je reviendrai là-dessus. Dans les inventaires, il était dans le trésor de l'abbaye de Saint-Denis, où il est connu comme la tasse de Salomon, parce qu'on pensait que c'était Salomon. Bien. En fait, on dit depuis la coupe de Khosroès, c'est-à-dire Khosro Ier, Khosro II, les deux grands rois de la fin. On va voir que c'est pas, ça ne s'impose pas absolument. Mais avant d'en venir à cet objet, il faut tout de même se poser la question de la très grande rareté des plats, de la vaisselle en or massif qui nous est parvenue de l'époque sassanide. Presque tout ce qu'on a est en argent. On a un exemple de bol en or massif très lourd, hein, a été trouvé dans le trésor de Périchépineau en Ukraine. Alors, c'est toute une histoire. C'est dans la tombe d'un des premiers khans du peuple des Bulgares qui a été enterré après 650. On sait que c'est lui parce qu'il avait reçu un anneau à son nom des Byzantins et l'anneau est dans sa tombe. C'est aujourd'hui à l'Ermitage. Quatre photos du même objet. Là, je dirais, c'est de l'or royal ou plutôt de l'or de temple. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai pas retrouvé vraiment la source. Je pense que c'est peut-être Al-Biruni. Il existe trois catégories d'or en Iran. L'or rouge, c'est l'or réservé aux dieux. L'or jaune, c'est l'or réservé aux rois. Et l'or blanc, c'est l'or réservé aux nobles. Et vous voyez ici, c'est de l'or rouge. Bien. Donc, a priori, on pourrait penser à un trésor de temple. Et l'hypothèse a été faite, ce qui est parvenu dans le trésor du khan des Bulgares, c'est probablement en partie le résultat des pillages de l'empereur byzantin Héraclius dans l'Empire sassanide au moment de sa grande campagne victorieuse à la fin du règne de Khosrow II, 624-626. Et on sait que Héraclius a pillé plusieurs sites. Je vais revenir là-dessus à propos d'un autre objet. Il a pillé au moins deux palais sassanides, le palais de Ganjé, qui est aujourd'hui en Azerbaïdjan, Ganjé est en Azerbaïdjan, et le palais de Dastgird, en Haute-Mésopotamie, résidence royale. Et par ailleurs, il a pillé le grand temple de l'Ordurgushnasp, en Azerbaïdjan iranien. Aujourd'hui, c'est le site de Tart-e-Soleiman, le seul des trois grands feux de l'Iran sassanide qui a fait l'objet d'une identification précise, dont les ruines sont conservées, ont été fouillées et publiées. Donc, il serait assez logique que ça vienne d'un trésor royal sassanide et peut-être même du trésor du temple de l'Ardurgoshnasp. Et c'est arrivé dans ses armées. Héraclius avait comme allié des Turcs d'Asie centrale. Et après, on sait, ou plutôt, il avait comme alliés les premiers Khazars, qui vont plus tard former donc le grand royaume des Khazars sur la mer Noire. Et les Khazars eux-mêmes se sont retrouvés en rapport d'alliance ou de conflit avec les premiers Bulgares. Et donc on peut supposer, c'est certainement ça, que c'est comme ça que cet objet a fini dans la tombe du Khan bulgare Kubrat. Alors, à part cet objet-là et le plat de Khosrow dont on va parler, il y a vraiment très très peu de... Il y a de la vaisselle d'or sassanide, mais c'est rarement de l'or massif. C'est de la dorure ou c'est des choses qui ne sont pas bien épaisses. Alors, on a fait la remarque que, en fait, l'Iran est un pays assez pauvre en or. Il n'y a pas beaucoup de mines d'or. D'ailleurs, il suffit de regarder l'inscription de fondation de Darius à Suse. L'or, qui a amené l'or à Suse? L'or est venu de Lydie, c'est-à-dire Anatolie de l'Ouest, et de Bactriane. Dans les deux cas, ce n'est pas de l'or de mine, c'est de l'or d'orpaillage. On sait que les rivières de l'ouest de l'Anatolie contiennent des pépites d'or. Pareil en Bactriane, et notamment la Moudaria. Et puis, je rappelle tout de même donc, le nom du fleuve qui coule à Samarcande, c'est le Zerafshan, c'est-à-dire celui qui prodigue l'or. C'est de l'or d'orpaillage et qui peut produire parfois des rendements importants. Aujourd'hui, il y a des mines d'or en Ouzbékistan, c'est même le sixième producteur mondial. Mais voilà, l'or, c'était les sources d'or dont pouvaient disposer les Sassanides. Ils avaient beaucoup moins d'or que d'argent. Plus tard, va s'ajouter encore une autre source, c'est le Caucase, les mines du Caucase. Mais pas énormément d'or en Iran, et d'ailleurs la monnaie d'or en Iran ne joue pas un rôle très important, au moins après l'époque achéménide, puisque à l'époque sassanide, il y a des monnaies d'or, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a apparemment pour chaque souverain, et c'est plutôt des monnaies, des médailles qui sont frappées au moment de l'avènement. Ça ne fait pas véritablement partie de la circulation monétaire. Contrairement à la monnaie d'or romaine, qui sert aux besoins du commerce, et contrairement à la monnaie d'or centra-asiatique, où là, il y a toujours eu beaucoup de monnaie d'or. Alors, bon, évidemment, on peut aussi penser à trouver d'autres arguments. Ces plats en or, peut-être étaient-ils, après la conquête arabe, plus souvent refondu que les plats en argent, parce qu'évidemment, le profit qu'on tire de la refonte de l'or est bien supérieur au profit qu'on tire de la refonte de l'argent. Voilà ce qu'on peut... En tout cas, ce plat, bon, il est en or massif, et c'est pas rien, le poids. Hein. C'est, d'après l'inscription qui donne le poids, ça correspond à 1,7 kg d'or, quand même. 1,7 kg. Et ça ne compte pas le poids des incrustations. Alors, cette coupe, bon, c'est un objet donc royal et qui n'a jamais cessé d'être royal, puisque la tradition, qui semblerait crédible, c'est que c'est un cadeau du calife Haroun al-Rachid à Charlemagne. Haroun al-Rachid a offert à Charlemagne un éléphant, on le sait, et il aurait offert cet objet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le trouve dans le trésor de Saint-Denis, sous le petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve, qui, à sa mort, le lègue au trésor de Saint-Denis. Et on sait qu'il est, il est dans le trésor sous Charles le Chauve par un témoignage indirect, c'est que Charles le Chauve a fait commander une coupe en pierre précieuse et la bordure de cette coupe est une imitation de la bordure de celle-là. Donc l'objet est en France déjà au IXe siècle. Donc c'est un objet royal qui n'a jamais cessé d'être royal. Alors, qui dit roi dit couronne. Quel roi ? Ben, ça pose le même problème que le plat précédent, puisque c'est la même couronne. C'est cette fameuse couronne qui a été adoptée pendant 3 générations et pendant 120 ans. Alors, la dernière étude en date, c'est dans la revue numismatique par Madame Villers-la-Petit, la coupe d'orfèvrerie sassanide au cabinet des médailles, nouvelle attribution. C'est paru, c'est quelqu'un qui travaille au cabinet des médailles et c'est paru dans la revue numismatique 2014. Cet article a fait l'objet d'un compte-rendu assez critique par Rika Gizelen, mais surtout parce que Madame Villers-la-Petit ne s'intéresse pas aux inscriptions. On va voir ce qu'on peut dire des inscriptions. Ne tient pas compte du fait que la façon dont les couronnes sont représentées sur les plats n'est pas tout à fait aussi fidèle que sur les monnaies. Je pense quand même qu'elle a une assez bonne argumentation. Elle montre que, disons, si on va chercher du côté de nuances, de style, etc., le fait qu'il n'y a qu'une bande de perles alors que sur d'autres couronnes, il y en a deux, le candidat le plus vraisemblable pourrait être Cavate Ier, voilà, le père de Rousseau. Celui, donc, qui, non, ce n'est pas celui qui a fait le plat précédent, c'est son fils. Voilà une monnaie d'or frappée au moment de l'avènement de Cavate Ier. Ouais, la couronne est représentée exactement de la même manière. Sous les règnes ultérieurs, il y a des différences stylistiques. La calotte a tendance à monter. Enfin, ouais, il y a des petites subtilités. Bien. Une autre indication, mais alors là, beaucoup plus hypothétique, c'est le style polychrome. On n'a pas ça dans la vaisselle sassanide. Ça a l'air vraiment, on dit, un style barbare. Voilà, ça fait vraiment penser aux Goths, aux Mérovingiens et au peuple, disons, aux Huns, qui appréciaient beaucoup ce genre de... Bon, avant les Huns, les Sarmates. Typique, on dit, typique nouveau riche de la steppe. Bien. Là, en l'occurrence, les incrustations... je crois que donc le blanc, c'est du cristal de roche. Rouge, est-ce que c'est de la pâte de verre? Je crois que c'est du rubis, enfin du rubis, du grenat. Du grenat, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rubis du Badarchan, qui est un peu un ersatz du rubis de Ceylan et qui est moins cher. Et bleu-vert, c'est de la pâte de verre. Alors, c'est assez. Ça peut être. L'objet est pratiquement intact, en fait. Il y a eu vraiment très, très peu de récupération dans les incrustations. L'argument pour attribuer au règne de Cavade, c'est que Cavade a des rapports particulièrement étroits avec l'Est, et notamment avec les Eftalites, puisque, bon, les Eftalites ont vaincu son père, qui est mort face à eux et qui y a perdu aussi son armée. Mais auparavant, Cavade avait passé de longues années comme otage chez eux. Il avait épousé la fille du roi des Eftalites. Et en fait, pendant tout son règne, l'Iran paye tribut aux Eftalites. Mais en échange, les Eftalites lui apportent un soutien militaire. Quand Cavade est détrôné, ça arrive à deux reprises. C'est les Eftalites qui viennent à la rescousse pour le remettre sur le trône. Ils envoient des contingents. Quand Cavade fait la guerre contre les Byzantins, ils envoient des contingents. Donc les rapports, en fait, pendant toute la durée du règne de Cavade, sont pacifiques. C'est Rosslot, le fils de Cavade, qui va mettre fin à la trêve, qui va cesser le paiement du tribut et qui va s'allier avec les Turcs pour mettre fin à l'Empire Eftalite. Donc c'est un argument, certes indirect, mais qui vaut ce qu'il vaut, mais qui mérite d'être produit pour la datation de ce plat. Alors, on va voir, j'en ai terminé pour cette séance, on va voir qu'il reste beaucoup de choses à dire sur la symbolique des couleurs et également ce que nous enseignent les inscriptions. Voilà, je vous remercie.